Une heure, reste avec nous. RFI vous donne la parole.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Comme tous les jours, vous pourrez commenter l'actualité. Ce matin, nous allons surtout nous intéresser à la situation dans le nord du Mali, car la région, vous le savez, est à nouveau le théâtre de la violence djihadiste. On se souvient qu'en juillet dernier, François Hollande déclarait que l'opération Serval était une mission parfaitement accomplie. Et bien, depuis le départ des soldats français, les groupes armés tentent de réinvestir la zone. Les attaques se multiplient contre les casques bleus. Du coup, la semaine dernière, le ministre malien des Affaires étrangères a lancé un appel à l'aide. Il a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de créer une force d'intervention rapide, une force capable de lutter efficacement contre ces groupes terroristes. Alors, quelle doit être la réponse de la communauté internationale? Comment sécuriser le nord du Mali? Que vous inspire d'ailleurs l'action des casques bleus déployés sur le terrain? Ils sont 9300 en ce moment. Vous êtes nombreux à critiquer justement leur impuissance sur les réseaux sociaux, notamment celui évidemment d'RFI. On en parlera ensemble dans une trentaine de minutes. D'ici là, vous nous appelez 33 9 693 693 70. La page Facebook de l'émission RFI appelle sur l'actualité. Quelques 500 messages déjà postés pour le débat du jour. C'est un sujet, on le voit bien, qui suscite l'intérêt et beaucoup de passion d'ailleurs dans vos commentaires et beaucoup de colère également. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI, avec nos experts, nos spécialistes pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions et surtout n'attendez pas évidemment le début de cette émission pour nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler tout au long de la journée. On a besoin de préparer en amont cette première partie, donc n'hésitez pas. Dès que vous avez une question, vous décrochez le téléphone, vous nous appelez et à l'autre bout, évidemment, on est là, on est présent et on note vos questions qu'on retransmet immédiatement à la rédaction d'RFI. Voilà donc pour les coulisses de cette première partie. Alors, une première question concernant l'épidémie d'Ebola. Pierre, bonjour.
Bonjour, Anne. Bonjour, RFI.
Vous êtes aux Pays-Bas, hein?
Tout à fait, tout à fait.
On vous écoute. Hein.
J'ai appris qu'une aide-soignante espagnole a été contaminée par le virus Ebola. Mm-hmm. Alors, sur ce, j'ai quelques préoccupations. Comment ceci a pu être possible? Et secondo, quels sont les risques de propagation du virus au niveau de l'Europe?
Ah, les inquiétudes effectivement sur le continent européen, les inquiétudes sont même internationales, on l'a encore vu ces derniers jours aux États-Unis. Marie Jaspard est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en maladies infectieuses et dans la lutte contre Ebola pour Médecins Sans Frontières et la Pitié-Salpêtrière, hôpital parisien. Vous rentrez d'ailleurs de Guinée. Précisons que l'état de santé de cette infirmière espagnole est toujours considéré comme grave. Cela fait maintenant 9 jours qu'elle est hospitalisée. Cette infirmière est la première malade à avoir contracté le virus Ebola hors d'Afrique. Comment l'a-t-elle attrapé? De quelles informations vous disposez, Marie Jaspard?
Oui, alors on a, enfin personnellement j'ai assez peu d'informations parce qu'effectivement moi j'arrive tout juste de Guinée. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans le début des épidémies, quel que soit le pays concerné, et surtout des maladies à virus Ebola, il y a des difficultés pour mettre en place les procédures, les protocoles, et donc ça fait partie des choses qui sont tragiques, mais malheureusement inévitables au début. Et de la même façon, le personnel médical est particulièrement exposé dans ce genre de maladie. C'est les premières personnes, évidemment, qui voient les patients. C'est la même chose dans tous les pays du monde. C'est la même chose en Afrique, d'où je reviens, où, effectivement, énormément de collègues médicaux ont été infectés et un certain nombre ont été malheureusement tués par la maladie.
Ouais, en Afrique, donc, le personnel médical, effectivement, paie un lourd tribut. D'après les derniers chiffres que nous disposons, 395 cas ont été détectés chez des médecins et 216 décès parmi les soignants. On voit bien que le bilan est très lourd. Concernant l'infirmière espagnole, on dit qu'elle aurait pu toucher son visage avec un gant infectée. Il semblerait qu'elle se soit frottée le visage avec un gant qu'elle avait utilisé sur un patient justement qu'elle soignait, un patient qui avait contracté le virus Ebola. Comment peut-on commettre, j'ai envie de dire, une telle erreur?
Oui, alors très sincèrement, c'est, je pense que tous les soignants qui ont soigné Ebola, que ce soit en Afrique ou en Europe, ont ce genre de problème. C'est assez compliqué dans une épidémie où on a le virus absolument partout, sur les mains, sur la combinaison, de ne jamais se toucher. Quand on a la combinaison intégrale, on a le visage couvert aussi. Et il y a des situations, notamment au triage, quand le patient arrive, où on n'a pas encore la combinaison intégrale, et où ce genre d'erreur arrive, c'est arrivé à certains de mes collègues. On fait tous des petites erreurs, et dans ces cas-là, on commence à compter les jours. Et ça, c'est une expérience assez désagréable. Mais malheureusement, on n'est pas des robots, on fait toujours comme on peut. Il y a une forte charge émotionnelle de stress dans ces situations-là. Et donc, ce genre d'erreur arrive et continuera à arriver. Et c'est pour ça que le personnel médical doit être particulièrement sensibilisé et prudent. Et que, si je peux ajouter ça, les personnes qui pensent avoir des symptômes d'Ebola doivent respecter la procédure en place dans leur pays pour essayer d'éviter de contaminer plus de soignants qui vont les recevoir dans leur cabinet médical, aux urgences, des choses comme ça. Et risque du coup de s'infecter de la même façon.
Ah, le président du Conseil général des infirmiers en Espagne disait il y a quelques jours, nous sommes devant une situation qui requiert un entraînement de fond et la majeure partie du personnel ne l'a pas. Hier, le syndicat national des professionnels infirmiers en France tirait également la sonnette d'alarme. Que faire quand un cas suspect se présente dans les hôpitaux? Nous avons du matériel d'isolement simple mais pas adapté à un cas avéré d'Ebola. Où trouver le matériel? À qui s'adresser? S'interroge ce syndicat. C'est-à-dire que on voit bien que dans les pays européens, les pays occidentaux, nous ne sommes pas prêts finalement à faire face à une épidémie.
Alors, je n'irai pas ça complètement comme ça. En Afrique, on fait ce qu'on appelle du triage, c'est-à-dire les patients qui arrivent directement au centre de traitement, on n'a pas une tenue complète, on a une distance de sécurité de 1,50 m entre le soignant et le patient. On ne touche absolument pas le patient. Et du coup, il y a... C'est toujours une zone à risque, mais on arrive à ne pas se contaminer. Il y a des règles de base d'essayer de faire un interrogatoire extrêmement poussé à l'arrivée du patient, avant même de le toucher ou de l'examiner, pour voir si c'est un sujet à risque. Finalement, tout le monde n'est pas à risque. Il faut quand même revenir dans ces trois pays et avoir des symptômes. Donc, ce n'est pas non plus n'importe qui vient aux urgences. Ouais. Donc, je pense que l'interrogatoire à distance du patient est extrêmement important. Et une fois qu'on a éliminé le risque d'Ebola, on peut toucher le patient sans souci.
Marie Jaspard, Pierre nous demandait quel était le risque d'une épidémie en Europe. Il est faible, c'est ce qu'on nous dit officiellement.
Oui, alors à mon sens, il est extrêmement faible. Vous disiez qu'on n'était pas préparé. On est toujours, de toute façon, beaucoup, beaucoup mieux préparé que les trois pays qui ont malheureusement été contaminés par cette maladie. La procédure est entièrement en place. Dès qu'il y a le moindre suspicion, normalement, on est supposé appeler le 115 qui vient directement nous orienter vers un hôpital de référence avec un isolement. Enfin, c'est extrêmement bien mis en place, c'est tout à fait prêt. Moi, je ne crois pas à une épidémie de grande ampleur en Europe parce qu'on est prêt et que finalement, on devance la maladie en Sierra Leone ou au Liberia. Malheureusement, on court après la maladie quelque part. S'il y a un cas, on pourra l'isoler tout de suite.
Ouais, Marie Jaspard, encore une question au standard concernant l'épidémie d'Ebola. Marceline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Porto Novo, au Bénin, on vous écoute. Vous avez une question concernant le patient libérien décédé la semaine dernière aux États-Unis.
Oui. Bonjour aux journalistes, bonjour à tous les auditeurs de RFI, et merci de me donner la parole. Oui, j'aimerais savoir pourquoi n'a-t-on pas pu guérir le patient libérien alors qu'on avait déjà guéri d'autres patients, et comment a-t-il pu traverser les barrières de contrôle? Merci.
Alors ne raccrochez pas Marceline. Marie Jaspard, ce patient libérien est arrivé le 20 septembre sans symptômes aux États-Unis. Il a commencé à se sentir malade 4 jours plus tard. Le 28 septembre, il a été hospitalisé et placé en quarantaine et il est décédé la semaine dernière. Pourquoi les médecins n'ont-ils pas réussi à le sauver alors qu'effectivement, comme le dit Marceline, c'est une question de bon sens, pourquoi les deux précédents malades aux États-Unis, eux, ont pu être soignés?
Oui, alors je ne connais pas exactement la chronologie des symptômes de tous ces patients,
bien sûr.
En revanche, ce qui est sûr de mon expérience récente, c'est que plus on prend en charge les patients tôt, au tout début de leur maladie, dans les 48 premières heures des symptômes, plus on a une chance de les sauver et qu'il y ait une guérison. Et d'ailleurs, dans ces cas de figure-là, où on prend les gens en charge très tôt, on peut vraiment, vraiment sauver un certain nombre de personnes, comme c'était le cas en Guinée. Donc ce patient a peut-être consulté un petit peu tard après l'apparition des symptômes, mais il me semble que dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé réellement dans l'histoire, il y a eu quand même un peu un cafouillage, pour dire clairement les choses, aux États-Unis, puisqu'il s'était rendu une première fois aux urgences, mais il avait été renvoyé, puisque on avait estimé qu'il n'avait rien, qu'il allait bien, alors qu'il était, à ce moment-là précis, déjà contagieux.
Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement ce que j'ai lu entre les lignes de certains articles. Ça, c'est comme vous dites, un gros cafouillage qui me paraît être assez dangereux. Je pense que ça ne se reproduira plus parce que maintenant, les États ont appris de leurs erreurs. En revanche, c'est sûr que quand quelqu'un consulte, il faut le prendre en charge très rapidement, d'abord pour éviter la contagion, mais aussi pour essayer de lui apporter tous les médicaments et hydratation et nutrition nécessaires pour qu'il arrive à se battre de lui-même contre ce virus. Tous les médicaments qui sont actuellement sur le marché vont peut-être aider les choses, mais de ce que moi j'ai vu en Guinée, ce qui compte, c'est de se débrouiller pour que le patient tienne le coup, reste en vie, jusqu'à ce que le virus disparaisse tout seul quelque part.
Et est-ce qu'on peut aujourd'hui, en fonction de vos informations, Marie Jaspard, vous qui travaillez à Médecins Sans Frontières, est-ce qu'une personne aujourd'hui qui est atteinte d'Ebola peut passer le contrôle à la frontière, peut monter dans un avion sans que la fièvre soit détectée?
Ah oui, bien sûr, au tout début. Alors pendant au moins les deux premières semaines, il se peut qu'on ait absolument aucun symptôme et qu'on soit uniquement porteur du virus. Donc dans ce cas-là, on est ce qu'on appelle porteur sain, on n'est pas symptomatique, mais on n'est non plus pas contagieux. Donc à ce moment-là, on ne pose pas de problème pour la communauté. Ce qui est important, c'est de sensibiliser les voyageurs, les gens qui viennent de ces pays, sur les symptômes, et que ces gens se surveillent, si vous voulez, qu'ils prennent leur température régulièrement, et qu'à la seconde où ils ont un symptôme évocateur d'Ebola ou la température, ils aillent avec la procédure locale, appeler le 115 ou se rendre à tel hôpital qui est l'hôpital de référence. Mais on peut très bien passer la douane, la frontière, absolument asymptomatique, sans même savoir qu'on a le virus dans le sang, et rentrer dans n'importe quel pays, ça c'est évident.
Merci Marie Jaspard d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes spécialiste en maladies infectieuses et dans la lutte contre Ebola pour Médecins Sans Frontières. Bonne journée à vous. Merci Marceline de nous avoir appelé de Porto Novo. Il est 10h22 à Paris. Vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako, au Mali, et vous avez des questions concernant l'interdiction des syndicats dans les armées françaises.
Oui, exactement. Bonjour à tous les éducateurs de RFI. Oui. Ma première question est de savoir pourquoi la France ne veut pas de syndicalisme au sein des leurs armées.
Pourquoi la France ne veut pas de
syndicalisme au sein de leur armée.
Ah, pourquoi ne veut-elle pas, effectivement, c'est une bonne question, et on en parle puisque la France a récemment été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui estime illégale, justement, l'interdiction de se syndiquer dans l'armée française. Bonjour Léa Ticlette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas se syndiquer quand on est militaire en France?
Historiquement, c'est pas pour rien qu'on appelle l'armée française la grande muette. Exprimer un avis, c'est un peu contraire à l'esprit même de l'armée. On n'a pas le droit de retrait, on n'a pas le droit de contester, de faire grève, pas le droit par exemple à une clause de conscience. On ne pourrait pas imaginer qu'un chef de bataillon dise « Ben non, moi je ne veux pas aller en Afghanistan, je trouve ça mal ». Voilà. Donc se syndiquer, c'est aussi une manière de contester, d'exprimer un avis. C'est assez mal vu.
Ouais, donc c'est historique, on le comprend bien. Ce qui est important de préciser, c'est que la Cour européenne dit oui au syndicalisme, mais non au droit de grève, quand on est militaire.
Elle dit ça, et elle dit aussi oui au syndicalisme, mais avec des restrictions légitimes qui sont tout à fait compréhensibles. Ensuite, la question qui se pose, c'est pourquoi la France continue d'interdire en totalité le syndicalisme et le droit d'association, alors que les voisins, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni, ont autorisé les militaires à adhérer à des syndicats, encore une fois, avec des restrictions. C'est le principe européen.
Ouais. Vous aviez d'autres questions, Fabien? Fabien? On a perdu. Oui. Vous êtes là, voilà, on vous écoute. Vous aviez d'autres questions?
Ouais, deuxième question. Vous avez dit quelles sanctions la Cour européenne a pris pour cette affaire?
Alors, quelles sanctions pour la France si elle n'accepte pas, effectivement, d'autoriser les syndicats dans l'armée?
Voilà, de manière générale, les sanctions de la CEDH, c'est tout simplement des sanctions pécuniaires, une amende ou des indemnités à payer directement aux gens qui sont concernés par les décisions. Ensuite, la France a 3 mois pour
faire appel,
ce qu'elle fera pas dans le cas présent. Pourtant.
C'est-à-dire qu'elle ne fera pas, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte du verdict.
Elle ne fera pas appel.
De la sanction de la Commission européenne.
Voilà.
Enfin, de la Cour européenne des droits de l'homme.
C'est ça. Ce que dit, en gros, le ministère des Armées, monsieur Le Drian, il dit des syndicats dans l'armée, on n'y pense pas. Mm-hmm. C'est pas du tout à l'ordre du jour. En revanche, on peut réfléchir à des inflexions nécessaires pour une meilleure concertation des militaires. C'est un besoin qui s'est fait sentir ces dernières années parce que, avec la féminisation des armées, les cas de harcèlement sexuel, de viol, avec les problèmes de paye, un logiciel qui avait quelques
ratés. C'était il y a 2-3 ans, effectivement.
Voilà. Les militaires ont ressenti ce besoin d'un organisme extérieur. Mmh. Voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est quelles pourraient être les suites de cette affaire. Tout simplement, vraisemblablement, pas de syndicats, en revanche, peut-être des associations civiles auxquelles les militaires pourraient adhérer.
D'accord, à suivre donc. Merci beaucoup Léa Ticklette d'être venue répondre à Fabien, qui nous appelait de Bamako, 339-693-693-70. Nestor nous appelle d'Accra, au Ghana. Bonjour Nestor.
Bonjour Gomez.
Bienvenue sur l'antenne de l'AFI.
Bonjour à tous les auditeurs, sans oublier l'équipe technique de la Radio Mondiale.
Et vous faites bien de saluer les techniciens. J'oublie régulièrement de les remercier, mais sans eux, on pourrait pas parler et on pourrait pas discuter ensemble. Ce qui fait sourire à Isabelle Chenu du service culture. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que sans les techniciens, on pourrait pas se dire bonjour.
Exactement.
Nestor, vous avez des questions concernant le prix Nobel de littérature décerné à Patrick Modiano.
En fait, j'ai appris par RFI que le prix Nobel de littérature a été attribué cette année à un écrivain français, Patrick Modiano. Mm-hmm. J'ai deux questions. La première est de savoir quels critères qui permettent de déterminer le prix Nobel à un écrivain. Et la deuxième question est de savoir à quoi ça peut servir un prix Nobel de littérature pour un Africain.
Ah, et pour un écrivain, effectivement. Isabelle Chenu, les critères, ils sont, j'ai envie de dire, quasiment inscrits noir sur blanc dans le testament, non, de Monsieur Nobel.
Oui, il y a des critères objectifs, ceux qui ont été définis par Alfred Nobel lui-même, le prix Nobel de littérature, doit notamment avoir fait preuve d'un puissant idéal. Donc, c'est une expression à la fois ambitieuse et suffisamment vague pour faire débat. Donc, le prix Nobel de littérature peut récompenser une œuvre exclusivement littéraire, mais aussi une œuvre qui a une signification plus politique. Plusieurs écrivains exilés, dissidents, contestataires, persécutés ou interdits de publication dans leur pays ont déjà été récompensés dans le passé, comme les Russes, par exemple Boris Pasternak ou Alexandre Solzhenitsyn, le Chilien Pablo Neruda. Le prix Nobel peut aussi honorer, évidemment, des romanciers, mais aussi des philosophes ou un historien et même un homme d'État, Winston Churchill, ancien premier ministre britannique, l'a reçu pour la qualité de ses discours politiques. Donc là, cette année, Patrick Modiano, une œuvre exclusivement littéraire.
Et le lauréat du prix Nobel de littérature doit pouvoir transmettre, j'imagine, des sentiments forts.
Oui, son écriture doit transmettre un message qui doit permettre au lecteur de réfléchir, de contempler l'existence d'une autre manière. C'est joli, hein ?
Oui, c'est bien dit.
Il faut avoir construit une œuvre cohérente dans le temps. C'est le cas de Patrick Modiano qui a écrit une œuvre intime, une trentaine de romans et tous autour de la période de l'occupation allemande en France, sur les questions de la mémoire, de l'identité, de l'oubli.
Ouais, il y a aussi, j'imagine, des critères subjectifs d'attribution.
En fait, personne ne sait vraiment comment est attribué le prix Nobel de littérature. C'est très opaque, très mystérieux. L'Académie a vraiment le culte du secret. Les archives de ses délibérations ne sont rendues publiques qu'après 50 ans. Ce que l'on sait, c'est qu'en février de chaque année, l'Académie suédoise compose le comité Nobel avec 5 de ses membres qui sont élus pour 3 ans. Ces 5 académiciens vérifient la pertinence des écrivains qui sont proposés et qui sont secrètement nommés. Ils établissent une liste. Cette année, il y avait 210 candidats. Ils l'établissent avec l'aide de spécialistes du monde entier. Et puis, cette liste, au mois de mai, elle va se réduire à 5 noms. Ensuite, ils auront tout l'été pour lire l'œuvre de ces 5 derniers candidats. Ouais. Et ils feront leur choix à la dernière minute. Le lauréat serait prévenu 30 minutes avant. Donc, on ne sait pas comment ils font. Et d'ailleurs, les parieurs s'en donnent à cœur joie chaque année pour essayer de savoir quels sont les critères.
Isabelle,
Oui, il y avait aussi une question sur combien ça rapporte. Ça rapporte beaucoup, le prix Nobel. C'est presque 1 million de couronnes suédoises. C'est un peu moins de 900 000 euros. euros. Et puis évidemment, des ventes qui vont exploser dans le monde entier. C'est la plus haute récompense.
À suivre. Merci en tout cas, remise du prix le 10 décembre. Merci beaucoup Isabelle Chenu.